Donc, il y a 2 semaines, je partais en avion avec ma chérie pour fêter nos 34 ans de mariage et aussi pour fêter mes 60 ans sur l'île de Skye. J'ai dit, waouh, ça va être super, un super temps romantique et voilà, je vais être là en contemplant la beauté de la création, en savourant 60 années de vie avec toi, Seigneur. Et donc là, on est arrivé, et le premier jour, je suis sorti, et j'étais sur une petite île, et il pleuvait, et voilà, je faisais le grand un peu, j'étais avec mon frère, il y a toujours la concurrence entre moi et mon frère, et je suis plus sportif que lui, et tout ça. Et là, on marchait, et à un moment donné, on grimpait un peu, et je voulais passer par un chemin un peu difficile. Et j'avais une voix intérieure, presque audible, qui me disait, fais pas ça. Mais presque audible, fais pas ça. Fais pas ça. Et donc, j'ai obéi à cette voix. Je me suis tourné, j'ai dit, je vais prendre un autre chemin. Mais en tournant mon dos, j'ai eu un élan d'orgueil. Et j'ai dit, non, je ne vais pas me laisser vaincre par ce rocher. J'ai repris le chemin de folie. Et j'ai mis mon genou sur un rocher pour m'appuyer comme ça. Et ça a glissé comme un savon. Et ça m'avait basculé sur le vide. Et je suis tombé 3 mètres sur des rochers. Et ce moment de glissement, c'était horrible. Bon, premièrement, j'ai dit, Robert, t'es stupide. J'ai dit, tu vas souffrir maintenant. Et je me sentais tomber loin. Et après, clac, 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 et une douleur, mais incroyable. Et j'ai hurlé comme une bête. Et je me suis trouvé face contre terre. J'étais dans des crottes de moutons. Et... Oh, affreux. Et j'ai dit, mais Robert est gravement blessé, là. Et Sylviane, elle est venue, et elle priait. C'est fantastique d'avoir une femme qui prie, elle priait. Et je voulais que personne ne me touche. J'ai dit, oh là, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive. Et après 2 minutes, là, j'ai pu me mettre sur pied. Et bon, j'avais du sang sur mon dos, sur mon visage. Et je regardais ma main, là. Et ce doigt-là, c'était comme un zigzag. C'était cassé là et là. Et c'était comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et toute la main, c'était énorme, c'était bleu. Et finalement, j'ai pu me mettre sur mes pieds. Et je me suis mis à 4 pattes pour grimper encore. Parce que je devais remonter. Et après, on devait faire 2 kilomètres. Et là, j'ai tenu la main de ma femme. Elle me communiquait une force. Et j'ai marché 2 kilomètres. Et c'était impossible. Mais j'ai marché 2 kilomètres, on a repris la route. On est allé dans un petit hôpital sur Portree. Mais c'est une petite île, c'est des petites villes. Et ils m'ont dit, voilà, quand je suis arrivé, je ne pouvais plus marcher. Ils m'ont mis dans une chaise roulante. Et tout était bloqué. Et là, ils ont dit, vous devez attendre 4 heures. J'ai dit, mais si j'attends 4 heures, je vais perdre mon doigt parce qu'il n'y a plus de sang, il n'y a rien. Et après, heureusement, après 20 minutes, il y avait un médecin qui est venu. Et il a regardé mon doigt et il a dit, tu vas perdre ton doigt parce que je ne pense pas que je peux le remettre. Il dit, on n'a pas les choses pour t'endormir ici. Et Inverness, c'est 3 heures de route et donc c'est difficile. Il dit, je vais quand même essayer. Donc, c'était marrant, parce qu'après, il m'a donné un peu d'oxygène. Il m'a dit, respire, respire, ça va enlever la douleur. Mais je suis sûr que c'était vide, parce qu'en plus, j'étais là, je voyais qu'il prenait mon doigt. J'ai dit, mince, j'essayais d'avoir... Et je dis, bon, je vais juste prier en langue, là, ça marche pas, là. J'ai dit, Jésus, tu m'aides. Et là, il a essayé, il a pris... Terrible. Et il n'arrivait pas. Non, là, il a fait appel à une autre dame. Elle est venue. Et grâce à elle, les deux, ils tiraient sur mon doigt. Tac, et tout d'un coup, j'ai senti clic, clic. Et ça s'est remis en place. Et donc, j'étais content. Et après, le sang est revenu et mon doigt était sauvé. Ça, c'était moi. C'était celui-là, Jacques. Celui-là. Et donc voilà, j'arrive à bouger, c'est super. Mais bon, malheureusement, bon, c'était le jour de notre anniversaire et je le voyais couper ma bague de mariage parce que l'autre doigt était trop gonflé aussi, tous les doigts étaient énormes. Et donc, pour Sylviane, j'ai dû lui redonner les deux parties de sa bague, de ma bague de mariage, le jour de notre mariage. J'ai trouvé ça un peu ironique, mais peut-être c'est symbolique d'un renouveau. Hein. Il faut que je retrouve quelque chose. Et après, bon, j'avais comme une énorme bosse ici. C'était comme si j'avais une troisième fesse. Hein. C'était énorme. Je dis, moi, c'est difficile quand tu sais pas où viser, quand tu vas aux toilettes après. Non, mais c'est... J'avais une énorme bleue, c'était énorme, et après toute ma jambe, c'est toujours bleu là, et affreux. Et j'ai dit, oh, mais peut-être j'ai un problème là aussi, peut-être j'ai cassé quelque chose. Et j'avais des douleurs ici, j'ai dit, oh, mais c'est pas possible. Et après, le gars, il dit, oh, tu peux partir maintenant, on a sauvé ton doigt, on peut rien faire d'autre. Alors là, finalement, j'étais content de rentrer chez mon frère, mais pour dormir, c'était affreux. Et après, ils ont fait un petit gâteau pour mon anniversaire, mais j'étais tellement dans la douleur que bon, j'ai essayé de sourire, de souffler mes bougies, mais bon, voilà. Mais bon, j'ai eu 4 nuits pénibles, 5 nuits, bon, je ne pouvais pas dormir, c'était dur. Mais bon, j'étais très content aussi, parce que bon, j'étais en vie. Et j'ai dit, j'aurais pu taper ma tête, j'aurais pu avoir des bras cassés, Et finalement, ça allait. Et en rentrant en France la semaine dernière, au lundi, je suis allé faire des radios et finalement, j'ai rien au bassin. C'est ça que j'avais un peu peur, que quelque chose soit cassé au bassin. Il n'y a rien de cassé ici, donc je peux marcher, il n'y a aucun problème. Bon, il y a une douleur, hein, je suis toujours un peu sensible. Mais j'ai juste deux côtes cassées ici. Mais ce n'est pas trop grave, parce que tu ne peux rien faire en tout cas, tu dois juste attendre et... Oui, oui. Et il ne faut pas rire.
C'est...
Oui. Mais ce qui était pénible quand j'étais en Écosse, j'ai attrapé un rhume. Et donc je toussais la nuit. C'est vraiment, je dis merci Seigneur. Et donc voilà, tout ça à cause d'une bêtise. Mais quand même au milieu de la bêtise, je dirais la grâce était là. J'avais quand même désobéi à Dieu, j'étais fâché avec moi-même. Et je ne peux rien dire. Parce que Dieu, il te donne toujours le choix. Il te donne toujours la bonne solution, mais on ne le prend pas toujours. Mais même si tu prends un mauvais chemin, bon, il m'a sauvé quand même. Tu vois, donc bon, je suis tellement reconnaissant à Dieu pour ça. Et je suis reconnaissant d'être devant vous ce matin. Parce que tout est gain maintenant pour moi. Tout est gain. Dans ma vie, j'ai eu deux fois où j'aurais dû mourir à la naissance. Et après, une fois, je suis tombé dans un coma pour 3 heures et Dieu m'a sauvé. Et cette fois, je pense aussi, j'aurais pu mourir. Et il m'a vraiment sauvé. Et donc, chaque fois, c'était un nouveau commencement pour moi. C'est comme une nouvelle saison. Et j'ai dit, c'est pas anodin, Seigneur, que tout ça arrive et à cette saison et mes 60 ans et tout ça. Et je pense que Dieu prépare une nouvelle saison. Et après, bon, il te console. Dieu est toujours là, il te console chaque jour et Tu sais, déjà, chacun de nous, on a un héritage en Jésus-Christ. On est régénéré par la résurrection. On a tout gagné. On a gagné le grand lot. Chaque personne ce matin, vous avez déjà gagné le loto. Vous avez la vie éternelle. Jésus-Christ vous aime. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Et donc déjà, je suis dans la joie. Je tressaille d'allégresse. Et Pierre, il dit, oui, vous en tressaillez d'allégresse. Quoique, vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Et donc, quelquefois, c'est ça la vie, n'est-ce pas? On a tout, on aime Jésus et tout ça, mais quelquefois, il y a des épreuves dans la vie. Quelquefois, il y a les grandes épreuves, quelquefois, il y a les petites épreuves, quelquefois, il y a des maladies, il y a des choses physiques, il y a des choses mentales, il y a des choses psychologiques, il y a les relationnels. Il y a des, comme il dit, il y a un peu de temps affligé par diverses épreuves. Ce n'est pas ce que c'est votre épreuve ce matin. Et il dit parce qu'il le faut. Mais pourquoi il le faut? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourquoi il le faut? C'est pour augmenter votre foi. Parce qu'il y a une chose précieuse en vous. C'est votre foi. C'est comme de l'or. Vous avez de l'or en vous. Et cet or, c'est le Christ en vous. C'est la réalité du divin. C'est l'éternité en vous. C'est cette vie éternelle. C'est la présence de la satisfaction totale en toi. C'est cette immensité, c'est ce trésor dans des vases d'argile. Et Dieu, il s'intéresse à ça. Dieu, il s'intéresse à ça. L'homme, il regarde l'extérieur. L'homme, il regarde la réussite, la beauté, la gloire, toutes sortes de choses. L'homme regarde ça. Mais Dieu, il regarde. Est-ce que tu as de l'or en toi? Et est-ce que cet or est pur? Et est-ce que cet or est raffiné? Et il dit, voilà, ces choses, il faut quelquefois être éprouvé. Parce que c'est pour votre foi. Et il dit, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or, se trouve être un sujet de louange et de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est un jour où Jésus-Christ va revenir. Il va être là, présent. Il est déjà présent, mais un peu... pas dans la totalité de sa force. Et un jour, il va être là, dans toute sa force, toute sa gloire. Et nous, on va être mis à nu. Et là, on va être là, les gens ils vont voir notre foi. Ils vont voir qui on est réellement. Et là, il y aura des gens qui vont avoir les lingots grands comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres qui n'ont que de la paille. Et ça va être... Et ils vont passer juste par la... juste limite, quoi. Mais là, il dit, là, ça serait un sujet. Les gens vont, regarde cette foi-là. Et les anges vont louer, ils vont crier. Ça va être un sujet de louange et de gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Et après, c'est juste un verset qui m'a consolé, ça. C'est le verset 8 de 1 Pierre. Et il dit, 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » C'est quand même bien ça. Parce que là, Jésus n'est pas... Il est un peu invisible, hein, dans la Sainte Cène, dans toutes ces... Et dans vos épreuves, il est vachement invisible, quelquefois. Tu peux pas, les gens, oh, mais t'es chrétien, et, ah, mais j'ai ça, blablabla, pourquoi c'est difficile, blablabla. Et là, tu dis, mais quand même, je vais m'accrocher, je vais dire, Seigneur, je t'aime, comme Job. Et au milieu de toutes ces épreuves et tout ça, sa femme lui dit, mais maudit Dieu, il meurt. Et il s'accroche. Quelquefois, il faut s'accrocher. Et il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, et sans le voir encore. Vous croyez en lui, c'est magnifique, hein? Sans le voir, vous croyez en lui. Quand il n'y a pas de preuves, quelquefois, quand il n'y a pas de trucs qui dit, voilà, Dieu existe, voilà, tous mes miracles, toutes les bonnes choses, toutes les réussites, voilà. Mais quand tu es un peu juste là, dans la foi nue devant Dieu, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Et ça, c'est mon expérience ce matin. Je tressaille d'une allégresse indicible et glorieuse. Et ça, c'est les arts de ce qu'on va vivre éternellement. Cette joie éternelle. Et cette joie est présente dans l'épreuve. Cette joie est présente dans les choses difficiles, dans les échecs de la vie. Et quelquefois, on a besoin de voir des priorités de la vie. Et j'aimais beaucoup Mike Bickle, quand il parlait de l'intimité de Dieu il y a quelques années, il y avait une vraie conscience sur ce qu'il faisait. Et il dit, j'ai réussi ma vie parce que je suis aimé de Dieu et je peux l'aimer de retour, point final. Et ça m'avait beaucoup consolé à l'époque. Et de nouveau, je trouve ça, qu'est-ce que j'ai à faire sauf aimer Dieu et croire en lui? Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et si ce matin je peux me lever et de dire, Jésus-Christ, je t'aime, et si tout cri douleur ou tout cri échec autour de moi, et tout cri, t'es nul, t'aurais dû, t'aurais pu, là, regarde ça, et l'ennemi va te montrer tout ça, et même au milieu de tout ça, tu dis, oui, c'est vrai, mais il y a une grâce, il y a une croix, et j'aime Dieu, je t'aime Jésus, et je crois en toi, waouh, victoire. Et après, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Et après, il y a une sorte de contrat qui est signé. Et ce contrat, c'est le contrat de Hesed, de l'intimité, qui dit, voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et donc, bien sûr, je cherche toujours de réussir ma vie, de passer le rocher, bien sûr, il ne faut pas être masochiste. Mais quand même, je ne peux rien perdre. Je ne peux rien perdre. Parce que Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Et donc, que Dieu vous donne la joie ce matin. Que Dieu vous donne la joie chaque jour, dans chaque épreuve, dans chaque victoire. Il est toujours avec nous. Et donc, j'aimerais aussi peut-être terminer en poursuivant un peu. Tu sais, je faisais des études des noms, hein, Christ formé en vous. Hein, quand je prenais le verset de Galates, un peu Christ formé en vous, c'est un peu comme cet or purifié. Tu sais, on a Christ qui est en train d'être raffiné, purifié en nous. Et Galates 4, 19, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et je pense que Christ est vraiment formé en nous par les souffrances, par des épreuves, par des défis, par la mission, par l'évangélisation, par la fidélité, par la prière. Christ est formé en nous. Et j'avais donné les enfants de Léa, 4 enfants, et j'aimerais juste terminer ça en donnant les petits-enfants de Rachel. C'est les enfants de Joseph. Et je vois que ces deux enfants, pendant des années, ces deux enfants, deux expressions de Christ, bien sûr, ces deux enfants m'ont tellement nourri, m'ont tellement apporté. Et quelquefois je reviens, peut-être vous avez déjà entendu 1000 fois, c'est ce que je vais dire, mais ça guérit, quoi. Quelquefois on a besoin, comme dans ce repas-là, voyez un fils. Christ est là, il nous guérit. Et donc je vais donner deux expressions encore de ce Christ en vous. Et ça se trouve en Genèse 41. J'aime bien Joseph, hein, c'est l'enfant missionnaire. Celui qui va au-delà des murailles. Et Genèse 41, verset 50, on voit qu'il y a Christ formé en vous, suivant les douleurs de l'enfantement. Et donc on voit qu'il y a une naissance, Genèse 41, 50. Avant la première année de famine, il naquit à Joseph deux fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Potipharah, prêtre d'On. Et Joseph, tu sais, il prenait cet enfant et il donnait au premier-né le nom de Manassé. Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et Christ nous visite comme Manassé. Et c'est toujours bien d'avoir ce Christ Manassé en nous. Parce qu'on prend beaucoup de blessures dans la maison du Père, quelquefois. Que ça soit la famille, la vraie famille, le vrai Père qui est quelquefois pas toujours gentil et tout ça. Ou que ça soit dans la maison de Dieu, hein, la maison du Père, quelquefois on a des mauvaises expériences, il y a tel et tel, et tout ça. Et on peut rester là, parce que des blessures d'autorité sont d'énormes blessures, tu vois. Il y a des petites blessures, mais il y a de grandes blessures aussi. Et quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a un papa, quelqu'un qui a un pasteur, quelqu'un qui a un professeur, quelqu'un qui a une certaine autorité de parole, une onction et tout ça, si vous blesse, waouh, ça peut laisser des traces. Ça peut vraiment laisser des traces. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un Manassé. Parce que Manassé, c'est celui qui nous guérit de ces blessures de la profonde de la maison du Père. Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon Père. Tu vois, c'est une manière de... Comment je peux dire, d'être guéri. Parce que oublier, c'est aussi être guéri. Mais ce n'est pas oublier sans cicatrices. Je pense que j'aurai des cicatrices sur le dos avec mon accident pendant des années. Mais il faut pas que ça soit empoisonné, contaminé, pollué. Et c'est la même chose pour nous. On a besoin de se laisser visiter par la grâce de Jésus-Christ. C'est sa présence, c'est cette foi. Je crois en toi, Jésus. Je crois que ta parole, ton amour, est plus fort que toute la peine de la maison de mon Père. Seigneur, que ton amour triomphe dans ma vie, Seigneur. Et que ça soit un cadeau qu'on reçoit. On ne peut rien faire nous-mêmes psychologiquement et tout ça. Bon, peut-être il y a des aides, des techniques et tout ça, mais quand même, il faut une guérison profonde. Et ça, c'est un don de grâce de Dieu. Manassé, ça vient d'une racine hébraïque qui veut dire qui me fait oublier. Et juste en Philippiens, hein, c'est Philippiens 3, 13. On voit dans le Nouveau Testament qu'il y a Paul à la fin de sa vie. Et comment il a travaillé pour le Seigneur et tout ça. Et à la fin de sa vie, tout le monde l'a abandonné. Hein. Il se trouve seul, il se trouve un peu dans l'échec, comme tous les apôtres d'ailleurs. Hein. C'est très rare que tu vois un qui part dans la gloire. Ils sont en prison, ils sont décapités. Mais ils ont fait un travail incroyable. Et c'est rare qu'il reçoit la montre en or, qui dit voilà, merci, t'as bien travaillé, César, il veut t'honorer. Hein, les pharisiens, ils veulent t'honorer. Non, tu ne trouves pas ça, tu vois là, souvent les souffrances, mais aussi tu vois la couronne de gloire, tu vois l'or de leur cœur tellement purifié, tellement édifié. Et à la fin de sa vie, là, il dit, j'ai pas encore accompli tout ce que je veux accomplir. Je pense qu'il y a un sentiment, c'est un gars qui est un pionnier, il va encore aller plus loin, Il dit, mon but est de le connaître, de connaître la puissance de sa résurrection. Je veux remporter le prix de ma vocation céleste et tout ça. Tu vois une énergie. Et il dit, j'ai été saisi par le Christ. Il dit, j'ai pas encore atteint la perfection. Mais il dit pas ça d'une manière un peu fataliste. Oh, je suis pas parfait, comme si c'est une excuse. Et il dit, je suis à fond pour Jésus. Et je veux être autant purifié que possible. Et après, il dit, je fais une chose, oubliant Manassé, oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant. Ça, c'est toujours une belle chose à faire. Parce que tu peux te perdre dans ce qui est en arrière. Tu peux te perdre là. Tu peux te perdre en analysant le passé, en te justifiant, en te maudissant. Mais Paul, ça sert à quoi là? Oubliant ce qui est en arrière, Manassé, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Et c'est ça la clé, c'est de dire, il y a toujours demain, il y a toujours un avenir. Tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste. Ma vocation céleste, Seigneur, je t'aime et je crois en toi. Je veux te servir, Seigneur. Et donc, je fais une chose. Quelquefois, on peut faire 1000 choses, on peut faire 10 000 choses. Il ne faut pas faire trop de choses. Quelquefois, l'erreur, c'est de faire trop de choses. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Et je cours vers ce qui est en avant. Alléluia. Manassé. Et après, on revient à Joseph, Genèse 41. Parce qu'il a un deuxième enfant. Hein. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Hein. L'Éphraïm Christ, le Manassé Christ. Christ formé en moi, Éphraïm formé en moi. Mais qu'est-ce que c'est Éphraïm? Éphraïm, ça vient d'une racine hébraïque qui veut dire « il m'a rendu fécond ». Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation, ou dans le pays de mon affliction, dans le pays de mon épreuve, dans le pays de ma souffrance ». Là où j'ai souffert, là je vais porter du fruit. Et je pense que la souffrance est comme une semence. Je ne veux pas tout expliquer, hein. Je ne peux pas expliquer toute une théologie de la souffrance. Mais je sais que chaque souffrance est aussi une semence. Et Joseph, ici, il reconnaît bien, il dit, voilà, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma souffrance. Il a souffert 13 années, Joseph, terriblement. Il a souffert physiquement, il a souffert moralement, il a été oublié. Et finalement, tout ce chemin de souffrance a produit un fruit qui a transformé une nation. C'est un miracle. Un seul gars, un seul bonhomme, tout d'un coup devient premier ministre, il change une nation. Et je veux vous encourager, parce que quelquefois, tu te sens humilié, tu te sens nul, tu dis, voilà, après toutes ces années, j'ai rien eu. Imagine le jour avant le rêve de Pharaon, tu demandes à Joseph, voilà, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie, Joseph? Quel est devenu tes rêves? Il dit, moi, je suis dans l'échec total. Je suis dans l'échec total. J'ai envie de me suicider parce que je suis en prison et tout est noir et toutes les portes sont fermées et les gens m'oublient et il n'y a rien qui se passe. Et le jour après, il est premier ministre. Tu vois. Je pense qu'il gardait la foi tout le long. Moi, je pense qu'il avait une joie indicible et glorieuse dans son cœur chaque jour parce qu'il savait que Dieu était fidèle. Mais Dieu ne sera jamais trop tard dans ta vie. Et il va accomplir parfaitement tout ce qu'il a dit sur toi. Et même si tu dis, mais il y a des murs devant toi, devant moi, c'est l'échec, s'il n'y a rien. Non, 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 non. Quelquefois, Dieu réarrange les meubles. Il est plus intelligent que nous. Et il nous libère de nos prisons. Et il prépare le temps. Et il prépare du fruit pour ta vie. Il prépare du fruit. Et quelquefois, ça passe par toutes sortes d'épreuves, des incompréhensions. Mais il y a un Éphraïm. Il y a un Éphraïm en Christ en toi. Le Seigneur m'a donné du fruit dans le pays de mon humiliation. Et là, quand j'étais face dans les crottes de moutons, là, j'étais humilié. J'étais dans mon péché, j'étais dans ma désobéissance, j'étais cassé. Même aujourd'hui, je me sens un peu cassé. J'ai dit, bon, voilà. Mais je sais que Dieu donnera du fruit au travers. Ça, c'est une toute petite chose. C'est une toute petite chose, c'est rien. Mais je sais que le Seigneur donnera du fruit. Et si je partage ça, ce n'est pas pour dire, oh, moi, me voici. Non, c'est pour dire, vous voici. Dans vos épreuves, dans vos difficultés, dans vos grandes choses, vos petites choses, qu'il y aura du fruit pour tous. Et qu'il y aura un fruit peut-être dans ce monde, mais si ce n'est pas dans ce monde, ça sera dans le monde à venir. C'est sûr. Et là, les gens, il faut garder la foi. Il ne faut pas vous laisser miner. Il faut dire, voilà. Si. Comme je dis, je dois serrer mes fesses et croire, mais moi c'était dur, je ne savais pas quelles fesses serrer. Hein. C'était, mais il faut croire. Je t'aime, Seigneur. Et c'est ça la plus grande bataille. Tu vas au lit, ce soit dans l'échec total, dans les misères, dans les difficultés, mais tu dis, mais en dépit de tout ça, Seigneur, je t'aime. Et ça, c'est vrai. Il ne faut pas juste faire du bluff, mais je t'aime et je crois en toi. Et tous les démons hurlent, Satan dit, mince, je suis vaincu. Je suis vaincu. Parce que c'est ça ce que je cherche. Et il peut construire la cité céleste est faite de l'or. Peut-être c'est littéralement comme ça, je ne sais pas. Mais moi, je sais, une chose que je sais, c'est que c'est fait de l'or. Et que l'épouse, elle est faite de l'or. Et c'est la foi. Et c'est la foi d'un amour qui dit je t'aime en dépit de tout. Et le ciel est fait de ça. Et bien, quelquefois, ça nous aide à comprendre des difficultés sur la terre. Parce que nous, on est limité dans notre regard. Mais Dieu, il cherche de l'or pour l'éternité. Et dernier verset hébreu, en parlant du fruit. Et encore, c'est peut-être un verset un peu plus personnel en ce moment, Hébreux 12. Et je me sentais peut-être, tu sais, Dieu, quand il t'aime beaucoup, tu vois, quand tu es vraiment le chouchou de Dieu, et c'est depuis plusieurs années que je suis le chouchou de Dieu. Il dit, voilà, je te corrige quand même, parce que je corrige ce que j'aime. Tu vois, je ne vais pas te laisser grandir n'importe comment. Et je n'ai pas fini avec toi. Je dis, oh, mais merci Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. J'ai 60 ans et tu me traites toujours comme un jeune garçon qui a besoin d'être corrigé. Merci. Ah, ça te renouvelle. La correction, tu sais, tu donnes des fessées aux bébés, non? Pas aux hommes de 60 ans. Et donc là, ça m'a rajeuni. Mais Seigneur, tu me considères comme un vieux. Là, tu me considères toujours comme un ado qui a besoin d'être corrigé. Waouh, ça me donne de l'énergie, cette correction. Et donc, Dieu corrige, tu vois, il corrige ce qu'il aime. Et dans ce verset de Hébreux 12, 11, il dit, voilà, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Et c'est vrai que humainement, il y a certaines choses qui font mal et certaines choses physiques ou même psychologiques, émotionnelles. Tu dis, je suis pas dans la joie. Bon, mais ça c'est la réalité. Mais écoute bien. C'est au premier abord, c'est un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Et Dieu nous forme. On est en formation. Et Dieu nous forme. Il nous corrige. Quelquefois, c'est pénible. Quelquefois, il corrige des individus, il corrige des églises, il corrige des communautés, il corrige des nations. Mais Dieu, il corrige pas comme un sadique. Il corrige comme quelqu'un qui dit « Ah, je veux le meilleur pour toi ». Et quelquefois, c'est pénible, certaines choses, nos projets personnels échouent, quelquefois, c'est pas exactement comme on voulait. Mais... Et il y a des moments, quelquefois, il dit « Voilà, un petit fessé là, paf, ah, il m'a donné une grosse là, j'ai gonflé là mes fesses là. » Mais voilà, c'est pas agréable tout de suite, mais plus tard. Et c'est ça la foi aussi, c'est de vivre dans le plus tard. C'est de dire voilà, je fais une chose, je cours vers l'avenir, je vis dans le plus tard, je suis une semence qui va porter du fruit. Et vis dans le plus tard. Plus tard, elle procure un paisible fruit de justice. Waouh! Un fruit. Ephraïm, le Seigneur va me donner du fruit. Oui, il va me donner un paisible fruit. Un fruit de shalom. Un fruit paisible. Et un fruit de justice. Parce que Dieu est juste. Et un fruit de justice. On ne veut pas juste l'amour à l'eau de rose, on veut l'amour juste. Et Dieu va donner justice aux nations. Il va donner justice à chacun de nous. Dieu est un Dieu de justice. Et quelquefois nos souffrances, nos intercessions, nos prières, nos vies, ça procure ce fruit paisible, ce fruit de shalom et de justice. Et là... Je vous encourage, parce que souvent c'est les plus humbles qui y participent. C'est les grands théologiens, les grands de ce monde, souvent ils ont tout le blabla. Mais souvent c'est ceux qui souffrent, ceux qui prient, ceux qui portent la responsabilité. Ils sont formés par Dieu, Christ formé en vous. Et ils portent ce shalom et cette justice. Et ça c'est aussi de l'or en vous. C'est la justice et la paix et la présence de Dieu. Et ça nous forme encore. Ça nous forme. Nous serons toujours en formation. Moi, je suis content d'être toujours en formation à 60 ans. C'est un cadeau de Dieu. Et je sais que, Seigneur, merci qu'il y a un plus tard. Et moi, je vis dans le plus tard. Je vis dans le plus tard du royaume de Dieu. Il y a un plus tard. Quelquefois, il y a des fins. Il y a des tac là, cette saison, on oublie maintenant. Et on va vers une nouvelle saison, remplie d'un fruit paisible de justice. Alléluia. Et donc, je vais prier maintenant, je vais vraiment prier que Manassé, Ephraïm, Christ envahisse votre cœur et qu'il vous encourage, qu'il augmente votre foi, si vous êtes dans l'épreuve. Vraiment, tu dis merci Seigneur, waouh, qui vous donne la joie, cette relation avec lui. Donc Seigneur, merci. Seigneur, je peux dire ce matin que j'ai réussi ma vie parce que tu m'aimes et je peux t'aimer en retour. Et Seigneur, je crois en toi et je t'aime. Et Seigneur, merci même pour toute chose qui augmente ma foi. Où je dois quelquefois faire face aux épreuves, où je dois faire face aux incompréhensions, où je dois faire face à la douleur. Mais Seigneur, ça augmente ma foi. Donc donne-moi la grâce de faire face aux choses, Seigneur. Donne-moi la grâce que je reçoive maintenant la grâce et que je reçoive Christ, que Christ soit formé encore en moi, que Christ soit formé. Seigneur, je reçois Manassé. Seigneur, fais-moi oublier toute blessure, toute chose pénible, Seigneur, toute blessure d'autorité, toute blessure de la maison du Père, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon Père. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'avenir. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans l'avenir que tu as pour moi, de me projeter dans l'espérance et de me projeter, Seigneur, dans la foi de tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci, Seigneur. Et Seigneur Éphraïm, je reçois Éphraïm maintenant. Christ en moi, formé en moi. Un beau Éphraïm, un bel Éphraïm, Seigneur. Merci, 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 merci. Le Seigneur me donne du fruit dans le pays de ma souffrance, de mon affliction, de mon humiliation. Et Seigneur, là où j'ai souffert, tu vois où j'ai souffert, Seigneur. Je vois où je souffre maintenant. Tu vois la zone de ma souffrance, mais donne-moi du fruit. Seigneur, je veux voir ma souffrance comme une semence ce matin. Et Seigneur, je sais que tu porteras beaucoup, beaucoup de fruits pour l'avenir. Shalom, justice, plus tard. Et Seigneur, que nos plus tard deviennent nos aujourd'hui pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.